excellente question pour vous. Est-ce qu'on peut remplacer l'enseignement de la parole de Dieu par un autre enseignement dans l'Église de Jésus-Christ? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on est sur le point de recevoir tout un enseignement provenant de la première épître de Paul à Timothée. Je vous invite à demeurer avec nous pendant toute cette émission, alors que la Bible va répondre aux questions que voici. Est-ce qu'une église peut bien fonctionner si la façon de penser de ses membres n'est pas biblique? Combien d'évangiles est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'une église doit enseigner? Est-ce qu'une église peut s'attacher à d'autres doctrines qu'à celle de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'enseignement dans une église doit produire? Quels sont les trois éléments essentiels qu'on devrait trouver dans une église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut remplacer l'enseignement de la parole de Dieu par un autre enseignement dans l'église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du discernement? Est-ce que c'est nécessaire de prêcher Christ crucifié? Restez là. En réponse à toutes nos questions, on va justement recevoir un très riche enseignement dans la parole de Dieu, et ce, par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec joie qu'on vient te prier d'un seul cœur, et on te demande de nous faire grâce, de nous accorder de passer tous les moments de cette émission dans ta présence, afin qu'on réalise que c'est vraiment toi qui parles par la bouche de ton serviteur, toi qui nous enseignes tes saintes écritures pour notre bien et pour ta gloire. Alors enseigne-nous, Seigneur, et donne-nous de goûter à ta présence pendant cet enseignement. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les deux versets qui introduisent la première épître à Timothée regorgent de vérités spirituelles, et nous les avons examinées. Par exemple, nous avons vu que la volonté de Dieu a une portée plus grande que les commandements de Dieu. Le Père Céleste veut que le monde entier soit évangélisé. Cependant, il peut me dire, « Régent, tu dois évangéliser dans la ville de Québec. » Ça, c'est un commandement, mais sa portée n'est pas aussi vaste que l'évangélisation du monde entier. Nous avons aussi souligné le fait qu'il y a un usage légitime de la loi. En effet, celle-ci doit servir à convaincre de péché, à nous révéler que nous sommes loin d'être des saints. La loi n'est jamais un instrument de salut. Nous ne pouvons jamais être sauvés en observant la loi bonne et parfaite de Dieu, car nous en sommes totalement incapables. Il faut alors éviter de devenir des bien-pensants, hypocrites, qui pensent mériter le ciel pour leur bonne vie ou leurs bonnes œuvres. Jésus-Christ est le chemin qui conduit à Dieu, qui conduit au trône de la grâce. Jésus-Christ est notre espérance. Nul ne vient au Père que par lui, et il a été crucifié pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et sauvés gratuitement. Si nous nous contentions de demander à Dieu qu'il fasse justice, il nous enverrait en enfer. C'est de sa compassion et de sa miséricorde dont nous avons besoin. Nous ne méritons que l'enfer, mais dans son amour, si nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel, il manifeste sa grâce envers nous. Nous avons terminé l'émission en affirmant qu'il n'est pas suffisant d'appeler Jésus Seigneur pour qu'il soit notre Seigneur, mais il faut aussi suivre ses ordres. Il faut lui obéir. Une église peut-elle bien fonctionner sans une bonne doctrine? Nous avons dit que cette épître traite du credo ou de la confession de foi des églises locales, ainsi que de son fonctionnement et son gouvernement. En fait, avant qu'une église puisse bien fonctionner, elle doit avoir une doctrine biblique. Il est impossible de bien fonctionner si notre façon de penser n'est pas biblique. Un jour, un homme s'est plaint en disant, Lorsque certains automobilistes sortent la main par la fenêtre, cela ne veut rien dire sinon que la fenêtre est ouverte. Nous pensons qu'ils signalent un virage à gauche, mais souvent ce n'est pas le cas. Il est difficile de prévoir s'ils vont virer ou non. Il est triste de voir des personnes essayer de bien faire ou de bien fonctionner alors que leur façon de penser a besoin d'être corrigée. Elles ne peuvent aller bien loin lorsque cela est le cas. Chers amis, débutons la lecture de 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Combien d'évangiles y a-t-il? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Autrement dit, de ne pas enseigner une doctrine différente de celle reçue de l'apôtre Paul et de son équipe. Paul a dit aux Galates qu'il n'y avait pas d'autre évangile que celui qui leur avait prêché. Les judaïsants, les juifs qui voulaient que les chrétiens adoptent toutes les coutumes et les rituels juifs, prêchaient un autre évangile que celui de Paul. Il y a un seul évangile, une seule vérité. Quelle devrait être la doctrine d'une église? La doctrine est l'enseignement de l'église. Quelle devrait être la doctrine d'une église? Simplement celle que les apôtres ont enseignée à la naissance de l'Église. Après la Pentecôte, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Citation du livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Dans ce verset, nous voyons quatre caractéristiques visibles d'une Église locale. Une église locale n'est pas une église du Seigneur Jésus si elle ne retient pas l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Je reconnais que nos différentes méthodes d'interprétation des Écritures nous conduisent à des conclusions différentes. Cependant, si nous sommes en accord avec l'essentiel, la grâce de Dieu manifestée en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne devrions pas nous quereller au sujet des points secondaires. Des vérités fondamentales à retenir. Cependant, nous devons retenir l'enseignement des apôtres, les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Les apôtres ont enseigné l'inspiration totale de l'Écriture, y compris le choix des mots. De plus, ils ont enseigné que la Bible est libre de toute erreur. Ils ont enseigné que le Seigneur Jésus était Dieu. Nous allons voir dans cet épître que l'apôtre Paul avait une très haute opinion de Jésus-Christ. Certains affirment que Paul n'enseignait pas la divinité de Jésus-Christ. C'est faux. En fait, il enseigne cette doctrine clairement. Dans le chapitre actuel, Paul place Jésus-Christ sur le même pied d'égalité que Dieu le Père. Je vous rappelle le verset 2 que nous avons étudié à la dernière émission. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'engageais à rester à Éphèse. L'apôtre Paul a laissé Timothée à Éphèse pendant qu'il s'est rendu en Macédoine. Éphèse était un port de mer important et Paul est demeuré plus longtemps dans cette ville que dans toute autre ville. Il y a exercé un ministère remarquable qui a rayonné dans toutes les directions. Timothée devait rappeler aux Éphésiens de ne pas enseigner d'autres doctrines que celles qu'ils ont déjà reçues de lui. Si la doctrine d'une église est fausse ou hérétique, alors elle n'est plus une église. Qu'importe son type de gouvernement, qu'importe combien de pasteurs, d'anciens et de diacres la dirigent, qu'importe ses ministères, si une institution n'enseigne plus la doctrine biblique des apôtres, elle n'est plus une église. Il est essentiel qu'une église enseigne la doctrine des apôtres. Lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ne pas s'attacher à des fables ou encore ne pas prêter attention aux mythes. Éphèse était au cœur d'une région avec des religions qui mettaient l'accent sur les mystères, des vérités connues seulement des initiés. À Éphèse, nous trouvions le temple de Diane, une déesse de la mythologie grecque. Les croyants d'Éphèse devaient se tenir loin de l'idolâtrie du temple. La Genèse est-elle une collection de mythes? Ce que Paul appelle fable pourrait aussi être la philosophie de Philon d'Alexandrie, un philosophe juif qui a voulu montrer la complémentarité de la loi mosaïque et de la philosophie grecque, surtout celle de Platon. Pour ce faire, il a tenté de spiritualiser l'Ancien Testament. Dans certains séminaires et certaines facultés de théologie, on a adopté une ligne de pensée semblable. En effet, on enseigne que le livre de la Genèse est composé de mythes. On enseignait aussi que les personnages bibliques du livre n'avaient pas existé. Mais des découvertes archéologiques ont mis un frein à ces spéculations. Par exemple, la découverte des tablettes d'Ebla a permis de confirmer l'existence de la civilisation hittite et de l'usage de noms retrouvés dans le livre de la Genèse. La civilisation hittite était la civilisation prédominante à l'époque d'Abraham. Des généalogies sans fin. Certains devaient mettre leur espérance dans les filiations et les descendances humaines. Ces généalogies étaient inutiles dans le plan de Dieu, qui était de proposer aux pécheurs un salut par la foi en Jésus-Christ. Ce type de détail n'aide pas un chrétien à devenir spirituellement mûr. À l'époque de Paul, les Grecs enseignaient l'existence du démiurge, un Dieu tout-puissant et créateur. Ce Dieu a créé un autre Dieu, moins puissant que lui. Ce nouveau Dieu en a créé aussi un autre. Nous avons aussi toute une filiation d'êtres spirituels entre le démiurge et l'être humain. Ceci fut adopté dans le gnosticisme, et les adeptes du gnosticisme voulaient situer le Seigneur Jésus quelque part dans la filiation des êtres créés. Qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Autrement dit, tous ces types de faux enseignements n'édifient personne dans la foi. De nombreuses églises libérales ou modernistes ont rejeté la parole de Dieu et aujourd'hui nous en voyons les résultats. Certaines se vident complètement, d'autres font des compromissions graves pour attirer les gens. Dans une ville américaine, une église faisait venir une effeuilleuse, oui, une stripteaseuse, une fois par mois. Il y a un temps où une telle chose aurait été entièrement impensable. Revenons au texte, lisons le verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pourquoi est-il important d'avoir une bonne doctrine? Un amour venant d'un cœur pur. Paul utilise de nouveau un langage intime alors qu'il écrit aux jeunes prédicateurs. Nous ne trouvons pas ce degré d'intimité dans les lettres adressées aux églises. L'apôtre Paul dit à Timothée que l'enseignement dispensé dans une église devrait produire un amour venant d'un cœur pur. Un cœur pur est l'opposé de notre vieille nature. C'est une personne qui a été justifiée en Christ Jésus et qui porte maintenant le fruit de l'Esprit qui comprend l'amour. Dans toute église, nous devrions percevoir trois éléments. La première est la foi, c'est-à-dire la foi en Dieu et en sa parole. La deuxième est l'amour. L'amour n'est pas un sentiment qui ne s'exprime que par des paroles. Le véritable amour nous pousse à l'action parce que nous nous préoccupons du bien des autres. Cela signifie aussi que vous ne répandrez pas de médisance à leur sujet pour leur nuire ou leur faire du mal. Une église a tout fait ce qu'elle pouvait pour détruire le ministère de son pasteur. Les membres n'avaient pas raison au sujet d'une chose. Ils ne pouvaient pas l'accuser de ne pas enseigner la parole de Dieu. Ils l'enseignaient fidèlement. Cependant, ils l'ont justement accusé de ne pas l'enseigner. Tout en détruisant leur pasteur, ils parlaient d'amour. Quelle hypocrisie! L'amour ne s'exprime pas avec des paroles, mais avec des actions. La vie de l'Église devrait manifester sa foi et l'amour devrait se manifester par des œuvres. Les chrétiens ont besoin d'une organisation avec des dirigeants, mais sa forme de gouvernement est secondaire. Ça peut être l'épiscopalisme, le presbytérianisme ou le congrégationalisme. Si l'Église ne manifeste pas d'amour et de foi, elle n'est qu'un club social religieux. Par contre, si l'Église fonctionne avec amour et foi, le type de gouvernement n'est plus important. Les membres d'une Église devraient aussi démontrer qu'ils ont une bonne conscience. Je ne crois pas que la conscience soit toujours un guide infaillible pour le croyant, mais un croyant devrait avoir la conscience en paix. Lorsque vous vous couchez le soir, ressentez-vous de la culpabilité pour une action commise dans la journée? De nombreux chrétiens sensibles se sentent parfois coupables. Ils doivent appeler les personnes contre lesquelles ils ont péché afin de régler le problème. Il est bon d'avoir une conscience sensible. D'autres ont une conscience marquée au fer rouge et ils sont insensibles au bien et au mal. L'amour, la foi et la bonne conscience sont trois vertus merveilleuses. Un visiteur devrait percevoir que tous les croyants de l'Église locale les démontrent. Lisons le verset 6. « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. » Vains discours, ce sont des paroles vides de sens, des paroles futiles. Ce peut être un langage poétique ou recherché, utilisé pour ne rien dire ou transmettre un faux message. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. L'apôtre Paul ne passe pas par quatre chemins, mais il vient droit au but. Il explique clairement que certains enseignent l'erreur, bien qu'ils enseignent avec beaucoup d'assurance. En fait, ils rejettent la parole de Dieu, et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Les discours vains sont nombreux. Aujourd'hui, les chrétiens sont exposés à de nombreux vains discours et à beaucoup de fausses doctrines. En effet, dans certaines églises, la parole de Dieu ou la Bible a été remplacée par l'enseignement d'une religion. On utilise des catéchismes ou encore un autre livre que l'on prétend être inspiré. La Bible est le seul livre entièrement inspiré par le Saint-Esprit pour guider les croyants dans la vérité. Toutes les parties de ce livre, jusqu'au moindre mot, sont inspirées. La Bible est un guide infaillible. Comme l'ont fait les disciples de Bérée, il faut examiner les Écritures pour voir ce qu'on nous enseigne est vrai. Il faut faire cela non seulement avec l'enseignement que l'on reçoit à l'Église, mais aussi avec celui que l'on reçoit à travers les médias. D'autres prédicateurs, tout en croyant et enseignant la vérité, partent souvent à la dérive sur d'autres sujets. Ils dénoncent des mensonges. Cela n'est pas mal en soi, mais cela ne doit pas prendre la place de la parole de Dieu. Ce peut cependant être tremplin pour nous amener à une réflexion au sujet de ce qu'enseigne la Bible. Pourquoi dénoncer un régime politique dans une église? Pourquoi dénoncer les politiques d'un parti? Le véritable besoin de l'être humain, c'est de retrouver sa relation avec Dieu, son Créateur. Alors, prêchons Jésus-Christ, le pont que Dieu a placé entre nous et lui. Prêchons sa parole. Un pasteur expérimenté disait souvent, « Le meilleur remède contre le mensonge est la vérité. » Si une personne connaît bien la Bible, elle discernera le mensonge lorsqu'on le lui en présentera. Il est plus important de présenter Jésus-Christ aux gens que de dénoncer l'avortement, l'euthanasie, la pornographie, etc. Lorsque Jésus-Christ transforme le cœur d'une personne, elle comprendra que certaines choses sont interdites par Dieu. Ne dénonçons pas pour le simple plaisir de dénoncer. Des pasteurs enseignent un mauvais concept de Dieu. Par exemple, ils insistent tellement sur l'amour de Dieu que les gens croient que Dieu ne pourra que les sauver. Cependant, Dieu et Jésus-Christ ont clairement dit qu'un pécheur non repentant n'entrerait pas au ciel. Sa justice et sa sainteté ne lui permettent pas de le faire. D'autres églises sont tellement légalistes qu'elles cherchent à se mériter la grâce de Dieu pour leur marche chrétienne. Les gens qui fréquentent une église légaliste sont instables et pensent souvent que Dieu pourrait les rejeter. Là encore, un message non équilibré qui met l'accent sur un aspect de la vérité au détriment des autres est une forme de discours vain. D'autres remplacent la parole de Dieu par les discours des psychologues ou encore ceux du Nouvel Âge. Au cours du dernier siècle, la psychologie a proposé plusieurs méthodes thérapeutiques fondées sur différentes hypothèses et sur différentes théories pour aider les gens. Ce sont des méthodes humaines qui n'ont jamais donné les résultats escomptés. Un jour, une travailleuse sociale m'a dit qu'il était impossible de changer les gens. Elle avait raison. Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut et promet de remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Une théorie psychologique devient populaire et à la mode. On développe des thérapies fondées sur ces principes. Ensuite, il arrive que des églises les recouvrent d'un vernis de vocabulaire biblique et les enseignent en les présentant comme la parole de Dieu. Après un certain temps, les psychologues constatent que la méthode thérapeutique ne donne pas les résultats escomptés, et ils se tournent vers d'autres avenues de solutions. Cependant, les chrétiens ne suivent pas et continuent d'enseigner la théorie dépassée. Ce sont des discours vains. La parole de Dieu n'est jamais dépassée. Dieu y présente sa solution au problème de l'humanité. La Bible reconnaît que l'homme a un cœur méchant qui a besoin d'être remplacé. C'est cela le problème fondamental de l'humanité. Enseigner autre chose que la parole de Dieu, c'est discourir en vain. Le Nouvel Âge propose aussi des solutions variées, parfois contradictoires aux problèmes de l'humanité. Certaines solutions proposées sont à la mode pendant un certain temps, mais elles deviennent moins populaires lorsque les gens constatent qu'elles ne donnent pas de résultats. La lecture de la Bible nous donne du discernement. Mes amis, voyez-vous la nécessité de lire la Bible pour avoir du discernement? Je connais de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes, mais lorsqu'elles traversent une crise, elles se tournent vers les méthodes du monde pour tenter de la résoudre. Ces gens ne tiennent pas compte des principes bibliques. Parfois, c'est par ignorance qu'ils le font. Il leur arrive même de penser qu'ils fonctionnent selon des principes chrétiens. Cependant, ils n'ont pas eu de discernement et n'ont pu faire confiance à Dieu parce qu'ils ont négligé l'étude de la Bible, le livre par lequel Dieu se révèle. Il faut prêcher Christ crucifié. L'apôtre Paul a toujours affirmé prêcher la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. L'Évangile transforme les cœurs. Saul de Tarse a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Le persécuteur de l'Église est devenu l'apôtre Paul. Il a été persécuté à son tour parce qu'il prêchait l'Évangile. Il l'a prêché avec joie. L'Évangile transforme les cœurs. Il y a aussi Zachée, le collecteur d'impôts, qui avait grimpé dans un arbre pour voir Jésus qui passait. Jésus s'est invité à dîner et la vie de cet homme a été transformée. Il a cessé d'extorquer les gens. Et il a remboursé ceux qu'il avait volés. Marie de Magdala, une femme qui était possédée de 7 démons, a aussi été totalement transformée par la grâce de Dieu, manifestée en Christ Jésus. Mes amis, connaissez-vous le Seigneur Jésus? Êtes-vous assurés que Dieu vous accueillera au ciel à votre mort? Un péché vous tient-il enchaîné au point de vous faire souffrir, de ruiner votre vie? Dieu a une solution pour vous. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour guérir ceux qui sont conscients d'être pécheurs. Vous n'avez qu'à lui confesser vos péchés, lui demander de vous sauver, de venir dans votre cœur. C'est avec joie qu'il vous pardonnera et qu'il vous donnera un cœur nouveau. Lisez sa parole et découvrez comment Dieu peut vous secourir. Il a le pouvoir de vous assister, de vous aider, de vous sauver. Vous n'avez qu'à vous accrocher à lui par la foi. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Timothée chapitre 1, les versets 8 à 18. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régin. Eh bien, c'est très clair après l'enseignement qu'on vient de recevoir de la part de Dieu, de sa parole, que justement, cette parole doit être prêchée dans toute église qui se dit de Jésus-Christ. Mes amis, On a bien vu qu'une Église ne peut pas bien fonctionner sans enseigner la saine doctrine, celle de Jésus-Christ. On a vu qu'il n'y a qu'un Évangile, qu'une seule vérité. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne crois pas qu'on puisse attirer des gens à Jésus-Christ si on n'annonce pas l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut par grâce, ce cadeau que Dieu donne à tous ceux qui croient en son Fils bien-aimé. J'ai vraiment trouvé ça bon quand Régent a mentionné qu'il est plus important de présenter Jésus-Christ aux gens que de dénoncer même l'avortement, l'euthanasie, la pornographie et plein d'autres choses, puisque c'est Jésus lui-même qui transforme le cœur d'une personne et qu'elle comprendra elle-même que ces choses sont interdites par Dieu quand elle aura reçu un cœur nouveau à sa nouvelle naissance. Oui, mes amis, on a bien vu aujourd'hui que l'Évangile de Jésus-Christ transforme les cœurs. On a vu l'exemple de Jésus qui s'est invité à demeurer chez Zachée. Zachée l'a reçu avec joie et il a reçu le salut. Jésus l'a sauvé parce qu'il reconnaissait qu'il était perdu. Ça me fait penser au 3e chapitre de l'Apocalypse au verset 20, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, Jésus s'est invité chez Zachée et Zachée l'a reçu avec joie. Il a ouvert la porte. Et aujourd'hui, c'est à ta porte qu'il frappe. Est-ce que tu vas recevoir ce beau cadeau? Est-ce que tu vas recevoir Jésus avec joie? Aimerais-tu ouvrir la porte de ton cœur maintenant? Aimerais-tu laisser entrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à manger avec toi, c'est-à-dire à être intime avec toi? Eh bien, reconnais, comme Zachée, que tu es perdu, perdu à cause du péché. La Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Ouvre la porte. Elle s'ouvre seulement par en dedans, et c'est toi qui peux l'ouvrir par la foi en Jésus-Christ. Reconnais qu'il a payé la dette de tes péchés en entier, en mourant sur la croix. Et n'oublie pas qu'il est ressuscité. Jésus est vivant en ce moment. Il est au milieu de nous et il veut que tu vives avec lui éternellement. Il veut que cette éternité de bonheur commence maintenant pour toi, que tu habites déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que sa parole dit pour ceux qui lui appartiennent. Alors demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il y a 2000 ans, Jésus était agonisant sur cette croix et il a pensé à toi personnellement. Il voulait te prendre avec lui pour l'éternité. Il voulait que tu deviennes un enfant de Dieu. Alors laisse Jésus toucher son cœur et invite-le à entrer chez toi.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.